Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez Histoire du soir avec votre humble serviteur Olivier Burette. C'est déjà la huitième de cette émission consacrée à des thématiques tout à fait variées sur la web Radio TerraZen. Et ce soir, je vous emmène avec moi tout simplement autour de ce mystère. D'ailleurs, on va voir si c'est ce soir totalement un mystère ou non, de cette zone qui se trouve située un peu à l'ouest des côtes de la Floride, hein, et dont le nom retenu dans les annales historiques de cette zone, qui part de l'ouest de la côte de la Floride, pour ensuite partir vers l'est, jusqu'à Porto Rico, et former une sorte de triangle, et qu'on appelle pour ça donc le triangle des Bermudes. Alors, c'est évidemment un thème récurrent des mystères, des grands mystères historiques. D'ailleurs, je pense que dans mon temps ce soir, nous continuerons et évoluerons un peu en perspective après cette émission sur d'autres mystères historiques, afin de voir un peu comment on peut relativiser tout ça. Mais néanmoins, on est là vraiment dans quelque chose d'emblématique. Et surtout une zone mystérieuse de disparition, d'abord de navires, ensuite d'avions, bien sûr, dans la période plus récente, et ce depuis des siècles, depuis au moins le 15e siècle. Donc ça fait à peu près 5 à 6 siècles que cette zone est considérée, qui englobe une bonne partie des Bahamas d'ailleurs, cette zone est considérée comme mystérieuse parce que des disparitions ont lieu. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'y intéresser pour clôturer, en quelque sorte, ce semestre sur la web Radio TerraZen que nous avons consacré à aborder divers sujets, plus ou moins mythiques de l'histoire. Rappelez-vous, on avait parlé de l'île de Pâques, on avait parlé de toutes ces choses-là, des civilisations précolombiennes aussi. Eh bien, ce soir, donc, on s'attaque pour terminer ce cycle, en quelque sorte, à ce mystère des Bermudes. Alors, c'est une zone géographique dans un premier temps, que représente le triangle des Bermudes. C'est une zone qui est très fluctuante. Selon les récits rapportés, les considérations des écrivains qui ont décrit le mystère lié à cette zone. Selon les auteurs, la zone, et c'est quand même assez énorme, varie de 500 000 à 1 million 5 de kilomètres carrés, ce qui évidemment est tout à fait considérable. Et elle prend son nom de Triangle des Bermudes en février 1964 parce que un personnage de Vincent Gaddis, dans un article nommé The Deadly Bermuda Triangle, définit la zone géographique que recouvre le triangle des Bermudes. C'est une zone qui se situe à l'intérieur d'un triangle, formé par l'archipel des Bermudes, Miami, San Juan et Porto Rico. On est, si vous voulez, un peu au nord de Cuba, au nord de la République dominicaine, hein, et dans toute une projection vers l'est, hein, des côtes du sud de la Floride. Alors c'est une zone Caraïbe, zone déjà, hein, il faut le savoir pour celles et ceux qui peut-être y sont allés, hein, une zone qui de toute façon est un climat, apporte des climats de violents. Hein. C'est une zone, la zone des fameux ouragans. Hein. Rappelez-vous de l'ouragan Katrina hein, qui avait anéanti la Nouvelle-Orléans il y a une dizaine d'années, par exemple. Hein. C'est une zone où, bon, moi, pour ma part, j'ai eu la chance de me rendre en Floride l'année dernière, hein, où des orages très violents peuvent éclater sans prévenir, hein, et vous passez d'une zone sèche à 2 mètres d'eau. Hein. Donc, évidemment, on est là dans quelque chose de tout à fait violent déjà à la base. Alors, les disparitions, pourrions-nous dire, les plus emblématiques, hein, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale hein, que cela a lieu. Par exemple, une escadrille entière de chasseurs-bombardiers hein, qui, le 5 décembre 1945, disparaît sans laisser de traces. Hein. Également, en septembre 1950, hein, dans un article, Edward Van Winkle fait mention pour la première fois de disparitions inexpliquées dans le secteur, hein, 2 ans plus tard, hein, par exemple. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est une zone où des perturbations manifestement magnétiques hein, ont lieu, hein, puisque notamment. Comment dire, Christophe Colomb, hein, pour ne pas le citer quand même, personnage du navigateur du XVe siècle, hein, 1492, hein, rappelez-vous, Colomb qui quitte l'Europe pour retrouver une route plus rapide hein, sur la route des Indes et qui finalement va tomber hein, et découvrir en fait non pas l'Amérique continentale en tant que telle, mais la zone, pourrions-nous dire, de Saint-Domingue. Hein. Et là, effectivement, Colomb, eh bien, va dans son journal de bord, hein, eh bien, mentionner des anomalies étranges, du dérèglement, par exemple, de son compas. Hein. Donc, là aussi, on a des choses relatées qui sont incontestables hein, dans cette région. Alors, on va examiner ce soir, évidemment, il y a plusieurs théories, bien sûr. Hein, et on estime, par exemple, en 1974, hein, que l'on est à 190 navires quand même qui disparaissent, hein, 80 avions également. Et c'est le célèbre Charles Berlitz, hein, dans son ouvrage intitulé Le Triangle des Bermudes, hein, qui va donc théoriser en quelque sorte tous ces problèmes mystérieux. Hein. Qui évidemment intrigue forcément les contemporains, car les disparitions dans le triangle des Bermudes, ce sont des faits. Hein. Ce n'est pas comment dire, des canulars inventés, il se passe bien des phénomènes lumineux qu'on ne comprend pas, des phénomènes qui font que des avions disparaissent, que des navires pardon, sont engloutis, hein, et que donc on a effectivement, un certain nombre de problèmes tout à fait inexplicables. Alors, bien sûr, il y a trois grandes hypothèses. Alors, bon, évidemment, les hypothèses que l'on retrouve souvent concernant ce genre de zone, qui évidemment évoquent des activités de type extraterrestre. Bon, alors, évidemment, là, bien sûr, tout cela reste à prouver. On a également une théorie tout à fait récurrente sur la région, hein, qui est de dire que ben oui, le triangle des Bermudes serait en quelque sorte dû, hein, tout simplement, à une forme de survivance de la fameuse Atlantide. Hein. Vous vous souvenez de cette histoire de l'Atlantide, on en avait déjà parlé, hein, c'est cette fameuse île continent mystérieuse hein, dont Platon parle hein, en relatant les dialogues de Socrate. Hein, et qui aurait donc disparu suite à un cataclysme tout à fait majeur, bien avant l'ère chrétienne, hein, au début de l'ère chrétienne, Bien sûr, on recherche depuis évidemment des siècles, hein, si je puis dire, l'emplacement éventuel de cette Atlantide. On l'a cherché un peu partout, on l'a cherché évidemment dans la mer Méditerranée, et aussi, bien sûr, dans l'océan Atlantique. Hein. Alors, effectivement, les Bahamas, comme vous le savez, il y a tout un tas de phénomènes très curieux dans ce chapelet d'îles. Hein. Il y a notamment la ville de Bimini, hein, avec donc ce que l'on pense avoir retrouvé sous l'eau, que seraient en fait comment dire, d'anciennes voies de circulation, des ruines mystérieuses. Et donc, évidemment, l'esprit court assez vite, pourrions nous dire, pour aller jusqu'à penser que, bah oui, peut-être, pourquoi pas, que eh bien, cette perturbation curieuse, hein, eh bien, du triangle des Bermudes viendrait ou serait un morceau de cette Atlantide disparue. Hein. Puis la troisième hypothèse, qui peut-être est la plus, dirions-nous, rigoureuse sur le plan scientifique, qui est celle des perturbations magnétiques, perturbations que l'on ne comprend pas encore tout à fait, mais qui expliquerait le dérèglement des instruments de navigation des navires, des avions, hein, et qui pourrait provoquer effectivement un certain nombre de perturbations mystérieuses, enfin jugées comme mystérieuses, dans cette zone. Alors la chronologie, évidemment, comment dire, des événements mystérieux est tout à fait impressionnante, et je vais avec vous ce soir en évoquer avant ensuite de me lancer dans les tentatives de résolution éventuelle de cette énigme, de vous en citer bien sûr quelques-uns. Bien après donc Christophe Colomb et son compas déréglé dont on a parlé tout à l'heure, les premiers faits, c'est vraiment l'extrême fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, avec un navire qui s'appelle USS Insurgent, qui disparaît effectivement en 1799 avec 36 canons et 340 marins dans la région. Alors vous me direz évidemment, un navire, ça peut faire naufrage, hein, mais quand ça fait naufrage dans cette région-là, bien sûr, cela pose bien plus de questions. Et puis, bien sûr, les événements se déroulent, plusieurs navires, beaucoup des navires, bien sûr, hein, puisque évidemment l'aviation n'existe pas encore à ce moment-là, disparaissent tout au long du 19e siècle, ce sont des navires américains, l'USS Pickering en 1800, le Patriot en 1812, l'USS Wildcat en 1824, le Rosalie en 1840, l'USS Grand Puce en 1843. Et puis, voilà, bien sûr, le 19e siècle se déroule, si je puis dire, et puis on arrive évidemment au 20e siècle. Et là, bien sûr, au 20e siècle, avec le développement des technologies, bah c'est l'aviation, et puis surtout après 1945, c'est escadrilles entières, hein, qui, bien qu'en indiquant de s'approcher de l'aéroport de Miami, par exemple, en Floride, eh bien finalement n'arrivent jamais et disparaissent tout à fait mystérieusement dans cette zone. Alors évidemment, on en revient à l'histoire magnétique, hein, disant que peut-être que, bah évidemment, s'il y a des perturbations magnétiques, hein, eh bien peut-être que, effectivement, c'est peut-être tout simplement ça qui dérègle les instruments des navires et des avions, hein, et qui fait que, eh bien, en effet, les objets disparus, les personnes disparues, comment dire, eh bien, disparaîtraient tout simplement à cause, de ce genre, de perturbation. Alors, bien sûr, les dernières en date, hein, par exemple, sur les trois années, en septembre 2005, c'est un avion Beech BE-58 qui disparaît. En mai 2006, un Cessna s'abîme à la suite d'une panne de moteur droit, deux personnes tuées. Et en octobre 2015, hein, c'est vraiment très récent, ça fait moins d'un an, il y a le cargo El Faro qui disparaît avec 33 personnes à bord. Et on nous indique que c'est quand même suite à un ouragan. Néanmoins, encore une fois, cela se produit dans la zone du fameux triangle des Bermudes. Alors, ces hypothèses, rapidement, les voici. On a souvent, donc, je vous l'ai dit, évoqué des perturbations magnétiques, et des flatulences océaniques, soit des émissions sous-marines d'un gaz, hautement inflammable, notamment du méthane, dont la présence sous forme de bulles dans l'eau diminue fortement la densité de l'eau, jusqu'à provoquer une perte de flottabilité des navires. Là, on est dans des phénomènes physiques qui sont peu courants, mais qui pourraient expliquer donc ce type de problème. Parallèlement, on nous indique que la décomposition d'éléments organiques comme le pétrole et le charbon, comprimés par la grande profondeur et la température très basse de l'environnement, libérés dans la création de failles par l'activité tectonique, on trouve aussi des gisements importants en mer du Nord. Donc, on aurait peut-être un phénomène ici de lame de feu également. Ça n'arrange pas non plus la flottabilité du navire. Alors, ce sont les hypothèses qui sont parmi, pourrions-nous dire, les plus rationnelles sur qu'est-ce que sont les phénomènes qui provoquent ces disparitions dans le triangle des Bermudes. Puis alors, bien sûr, il y a toute une série d'explications rationnel, pour nous dire, pour tenter d'élucider tout ça, en plus de ces histoires de méthane ou de lame de feu que je viens d'évoquer. D'abord, on invoque tout simplement le fait des pannes d'essence pour les navires, pour les, pardon, pour les avions, pour les escadrilles. Notamment le cas de cette escadrille qui disparaît à la fin de l'année 45. Pour les navires, on l'a dit tout à l'heure, et c'est ce que les anti-théories, si je puis dire, mystérieuses défendent, il y a tout simplement les tempêtes, et les ouragans qui, évidemment, peuvent très bien être amenés à provoquer ce genre de phénomène. Et puis ensuite, en quatre points, démonte littéralement les théories mystérieuses en nous expliquant que c'est une gigantesque comment dire, zone, qui, je vous avais dit 1,5 million tout à l'heure, mais on est plus près aujourd'hui, paraît-il, des 4 millions de kilomètres carrés, qui a une grosse importance du trafic dans la zone. Donc, bon, plus il y a de navires, plus évidemment les probabilités de naufrage se multiplient. Qui a également dans la région une forte activité tectonique, on le sait bien, et que des gisements d'hydrate de méthane peuvent aussi en être la cause. Et puis enfin, il y a des conditions météorologiques dans cette région du globe, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont particulièrement violentes. Alors, on évoque aussi, en plus de tous ces problèmes liés aux forces de la nature, pourrions-nous dire, eh bien, la question d'une éventuelle diminution du champ magnétique terrestre dans cette région. Ça a été évoqué dans un reportage National Geographic en 2003. Et puis aussi, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, les fameuses lames de feu, ce qu'on appelle les vagues scélérates, qui peuvent également dérégler et puis également attaquer comment dire, la navigation maritime de façon comment dire, dangereuse. En 1975, il faut savoir que le cabinet d'assurance de la Lloyd's, de Londres, une des plus puissantes compagnies d'assurance du monde, indiquait, je cite, que le triangle des Bermudes n'était pas plus dangereux que d'autres routes maritimes internationales. En 2006, les compagnies d'assurance ne jugent pas utile de majorer leurs primes pour les navires ou avions qui seraient amenés à traverser cette zone. Bref, dans le concret, si vous voulez, on relativise considérablement l'aspect mystérieux de ce triangle des Bermudes. On pourrait presque parler, en quelque sorte, de mythe moderne. Dans un sens, il ne s'y passe pas là de choses plus mystérieuses. Qu'ailleurs, si ce n'est que peut-être qu'effectivement c'est une zone où évidemment des choses inexplicables peuvent se produire, sans doute à la base pour des raisons magnétiques. Puis surtout, le triangle des Bermudes, ben on va le voir tout de suite, c'est une mine, hein, si je puis dire, pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui la culture populaire. Hein. On le retrouve ainsi mentionné dans des mangas, hein, par exemple, hein, ces bandes dessinées japonaises, hein, notamment une qui s'appelle Saint Seiya, le général dragon des mers. Hein. Qui parle donc de gardien du pilier de l'Atlantique Nord qui utilise une technique appelée Golden Triangle en référence au triangle des Bermudes afin d'envoyer son adversaire dans une dimension parallèle. Parce que bien sûr, il y a ça aussi, hein, que le triangle des Bermudes serait une porte, serait un passage évidemment vers un autre monde. Hein, ça fait partie des théories, bien sûr, que l'on retrouve. On le retrouve également mentionné. Dans les numéros de magie, par exemple, de David Copperfield, le célèbre magicien, qui a intitulé un de ses numéros Le Triangle des Bermudes, dans lequel il fait réapparaître un bateau qui avait coulé dans cette zone. Et puis, bien sûr, on le retrouve aussi dans les jeux, hein, certains jeux vidéo, dont Monkey Island. Hein. Voilà ce que j'en ai trouvé. Dans la chanson, bien sûr, là je ne vous ferai pas l'injure, c'est la fameuse chanson de Mort Schumann. Hein. On ne peut pas passer de musique dans cette émission, mais vous la connaissez bien, c'est Papa Tango Charlie, bien sûr, avec le fameux refrain du pilote en question qui dit « Je suis parti noyer ma solitude dans le triangle des Bermudes ». Alors, on retrouve aussi dans les romans, dans le livre La mer des monstres de Rick Riordan, dans le roman Souviens-toi à l'amour de Christophe Lambert, dans des bandes dessinées telles que L'île au mystère, bien sûr aussi dans les fameux albums de Blake et Mortimer, hein, où il y a à un moment donné la question de l'Atlantide est évoquée, et comme par hasard, bah, c'est encore une fois dans cette zone qu'on va trouver un passage vers ce peuple disparu. Puis bien sûr le cinéma s'en empare, avec donc notamment Le Mystère du Triangle des Bermudes, un film d'horreur de 1978, hein, qui donc évoque hein, ce film, enfin, cette zone. Puis bien sûr, il y a hein, bien sûr tout ce qui concerne les films catastrophes, à commencer par les naufragés du 747. Où cet avion va se crasher évidemment dans la zone du triangle des Bermudes. Dans la culture des séries télé aussi, hein, on va retrouver la question du triangle des Bermudes, notamment dans une célèbre série X-Files, hein, bien sûr, dans le troisième épisode de la sixième saison. Hein, un épisode donc qui parle là justement, j'en parlais tout à l'heure, du triangle des Bermudes comme étant une faille temporelle. Hein. C'est-à-dire que si ma mémoire est bonne, il s'agit d'un moment où un navire de la Seconde Guerre mondiale vient comment dire, s'égarer dans la fin du XXe siècle. Il y a la série évidemment bien connue, épisode 7 de dessin animé Albator 78 qui est consacrée. Une série plus récente, excellente, dérivée d'ailleurs de la période de X-Files, qui s'appelle Fringe, hein, dans le 20e épisode de la première saison, hein, qui s'intitule La croisée des mondes. Hein, et là aussi, le triangle des Bermudes est vu comme une porte, hein, de communication avec d'autres mondes. Également dans la série Code Quantum, 16e épisode de la quatrième saison, Panique à bord, où là encore une fois, il y a une rencontre temporelle hein, qui a lieu à cause bien sûr de notre fameux triangle. Alors bien sûr il y a plusieurs hypothèses hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est à la mode. On évoque aujourd'hui, alors toujours sur la fameuse théorie des poches de méthane dont je parlais tout à l'heure, on évoque aujourd'hui évidemment une des conséquences du réchauffement climatique, hein, qui donc provoquerait ces poches de méthane qui éclateraient. Ils sont créés par l'action de bactéries piégées dans le sang, dans les sédiments, les sédiments pardon, sous forme solide, et qui provoqueraient d'importants dégazages. Donc ils formeraient ces fameux trous dans l'océan qui brusquement provoquerait des vortex en fait dans lesquels les navires s'engouffreraient. Ces poches de méthane, on le précisera, on les connaît aussi aux alentours de l'Arctique, avec ce qu'on appelle le phénomène de la glace qui brûle. En d'autres termes, ces bulles de méthane ont été au fil des siècles piégées par la glace et sont une sorte de gaz à l'état solide. Alors que donc, avec le réchauffement climatique, les gaz, si je puis dire, se libèrent, et ça provoquerait tout un tas de phénomènes mystérieux. D'autant plus que il n'y a pas que les navires et les avions qui sont affectés. En 85, par exemple, avec ce même type de phénomène, une plateforme quand même pétrolière. On sait aussi que toute cette zone, n'oubliez pas, chers amis, du golfe du Mexique, ce qui est situé donc à l'est du golfe du Mexique, c'est une zone considérable de pétrole offshore. Et là, en 85, une plateforme entière aurait été déstabilisée suite à ce genre de phénomène. Alors, bien sûr, cette théorie, comment dire, naturelle, semble néanmoins la plus, comment vous dire, argumentée, parce que tout simplement, les autres hypothèses, et j'avais oublié d'évoquer la question des monstres marins, évidemment, restent, si je puis dire, dans le domaine des choses à prouver, bien évidemment. Alors, il y a bien sûr aussi des phénomènes, si vous voulez, avec des témoignages. Et je me propose de vous en lire un, puisque nous avons un peu de temps ce soir dans cette émission, sur une disparition d'une escadrille de bombardiers en décembre 1945. Témoignage écrit, et quand même, vous allez en juger troublant. Le 5 décembre 1945, à 14 h, cinq bombardiers américains Avenger, formant l'escadrille 19, quittent leur base de Fort Lauderdale en Floride. C'est un vol d'entraînement de routine. Les conditions de vol sont excellentes. À 15 h 45, le chef de l'escadrille, le lieutenant Charles Taylor, envoie le message suivant. Tour de contrôle, à vous. Répondez vite. Nous sommes perdus. Aucune terre en vue. Je répète, aucune terre en vue. Nous sommes perdus. Aucune terre en vue. Donnez votre position. Difficile de vous l'indiquer. Nous ne savons pas au juste où nous sommes. Je crois que nous sommes perdus. Dirigez-vous vers l'ouest. Impossible de savoir où est l'ouest. Tout est confus, étrange. Nous ne savons plus quelle est notre position. Même l'océan a l'air bizarre. Au bout de quelques minutes, on entend. Ne cherchez pas à me rejoindre. Il ressemble à... Puis, plus rien. Un aviateur de base, qui s'apprêtait à atterrir, le lieutenant Robert Cox, entend ces messages. Il tente d'entrer en contact. Escadrille 19, quelle est votre altitude? Je me dirige vers le sud et je vais essayer de vous rejoindre. Taylor reste silencieux. Au bout de quelques minutes, le lieutenant Cox entend. Ne cherchez pas à me rejoindre. Il ressemble à... Puis plus rien. Il est alors 16 h 30, à peu près au même moment, un hydravion de sauvetage, Martin Mariner, chargé de retrouver l'escadrille 19, approche de l'endroit d'où venaient les appels, et disparaît à son tour. Pendant plusieurs jours, la marine et la garde côtière mobilisent plus de 100 avions et navires pour passer au peigne fin quelques 100 000 mètres carrés. 100 000 miles carrés. En vain, une disparition de plus à mettre sur le compte du mystérieux triangle des Bermudes. Alors, on voit tout de suite dans cette, comment dire, cette petite citation, ce petit extrait, qu'on est vraiment, et c'est certain, dans un phénomène de type de perturbation magnétique. Je ne sais pas si vous êtes habitué, comme moi, d'un certain nombre de séries intitulées Panique dans le ciel, ou qui relatent un certain nombre de crashs aériens tout à fait dramatiques. Et notamment, c'est bien connu, quand des vols commerciaux, par erreur, vont être amenés à traverser notamment des orages hein, de nuit. Hein, et au-dessus de l'océan, eh bien, on ne sait absolument plus se repérer. N'importe quelle personne, et moi je connais quelques personnes qui ont fait du pilotage, qui ont pris des cours de pilotage, n'importe quelle personne qui, comment dire, a une licence de vol à vue, hein, eh bien, vous dira qu'il est absolument formellement interdit d'entrer dans des nuages, hein, même des nuages normaux. Hein. Tout simplement parce que, à partir de ce moment-là, les notions de bas, de haut, eh bien, comment dire, sont complètement désorganisées. Hein. Et évidemment, eh bien, rapidement, hein, on perd le contrôle. Alors, il reste bien sûr cette phrase bizarre, ne cherchez pas à me rejoindre, il ressemble à. Ça, c'est tout à fait. Mystérieux et bien sûr on peut imaginer si je puis dire énormément de choses avec cette mise en garde qui semble tout à fait terrifiante. Alors évidemment des témoignages comme ça on en a plein hein. On en a plein mais est-ce une raison pour penser aux théories les plus pourrions-nous dire les plus osés, hein. Je n'en suis pas certain dans la mesure où, effectivement, hein, on peut expliquer probablement hein, par des phénomènes de type magnétique hein, ce genre de choses. Alors pourquoi y aurait-il des phénomènes magnétiques à cet endroit-là de la Terre, hein, dans cette zone Caraïbe? Bah, regardez quand même une petite map monde, une petite carte de la, hein, de l'Amérique centrale, hein, puisqu'en fait c'est ça, hein, on est vers le golfe du Mexique, on se dirige vers l'Amérique centrale. Et rappelez-vous hein, du cratère de Chicxulub, hein, ce fameux cratère hein, situé au large de la péninsule du Yucatan, hein, et où, effectivement, il y a des millions et des millions d'années, un astéroïde s'est fracassé et a provoqué, effectivement, rappelez-vous, l'extinction hein, des dinosaures. Hein. Vous vous souvenez, hein, c'est ce cratère qu'on voit encore aujourd'hui, qui est gigantesque, qui a provoqué un phénomène que l'on dirait aujourd'hui d'hiver nucléaire, hein, c'est-à-dire de projection de poussière dans l'atmosphère pendant des années, hein, qui donc ont occulté complètement la lumière du soleil, ont complètement modifié comment dire, les écosystèmes sur Terre et ont tout simplement provoqué l'extinction de la vie, en tout cas telle qu'on la connaissait à cette époque-là, et effacé, si je puis dire, la phase, si pourrions-nous dire, saurienne hein, de la population donc de notre planète, puisque vous savez bien que c'est après que l'évolution, enfin si on se réfère aux théories de l'évolution, que bien sûr la nature, hein, dame nature, on veut dire, a repris avec les hommes. Hein. C'est ça que quand vous voyez des films hein, un peu mal documentés des années 60, des films kitsch hein, aujourd'hui, hein, où des hommes des cavernes se battent avec des dinosaures, bon, en principe, de façon un paléontologue sérieux, vous dira, ben non, il y a des millions d'années d'écart. Hein. Voilà. Ce qui ne veut pas dire non plus que certains sauriens gigantesques n'ont pas survécu dans certains lieux reculés du monde. Hein. Je fais allusion ici à une autre chose dont on aurait pu parler, qui est le fameux mystère du Loch Ness, hein, ou Loch Ness hein, en Écosse, hein, et de sa fameuse créature, le monstre Nessie, hein, qui pourrait très bien être, tout simplement, un de ces sauropodes maritimes gigantesques qui aurait très bien pu survivre. Hein, pourquoi pas, à une extinction, on n'en sait rien, mais je vous rappelle que les découvertes récentes qui sont faites dans les abysses, notamment des océans, hein, nous transportent chaque jour davantage dans des étonnements de voir ce qui vit au fin fond de ces abysses, que l'on n'aurait jamais imaginé que cela était possible. Alors revenons-en un peu, donc, évidemment, à notre affaire de ce soir, et donc à notre triangle des Bermudes, car l'heure tourne, nous avons maintenant un peu moins d'une demi-heure. Ce qu'on a dit tout à l'heure n'a pas changé. C'est effectivement une zone qui est mystérieuse, et c'est le célèbre Christophe Colomb qui nous le dit en premier. Et puis ensuite, eh bien, on a tous ces naufrages, dont un en 1918, un navire, le Cyclops, gros navire charbonnier avec une radio à bord, qui n'envoie aucun SOS, hein, et qui disparaît corps et biens, rien ne se passe. Un peu plus tard, l'avion Star Tiger, qui assure la liaison Açores-Bermude, s'évanouit un jour de janvier 48, après avoir envoyé le message suivant. Et alors là, encore une fois, c'est bien troublant. Conditions météo excellentes, arrivons à l'heure prévue, attendons les instructions pour l'atterrissage, et il ne s'est jamais rien passé. Et là, plus, mes amis, nous avançons, hein, dans, comment dire, les évolutions technologiques, hein, plus on est troublé, hein, par la rupture brutale, pourrions-nous dire, hein, du tracé, hein, et du suivi des navires ou des avions qui disparaissent. Il hein. n'y a pas vraiment d'appel au secours, c'est extrêmement brutal. Hein. Peut-être un vortex pour les navires, peut-être un dérèglement brutal pour les avions, qui font que, bah, évidemment, plus rien ne fonctionne et on n'a même pas le temps d'appeler à l'aide. Alors voilà, voilà ce qu'on peut, hein, évidemment dire, hein, sur cette affaire. Du triangle des Bermudes. En 2001, hein, on a ainsi découvert l'épave d'un chalutier à coque d'acier, hein, au fond de la mer. C'est un vaisseau fantôme, hein, il était posé à plat sur le fond marin, au centre d'un immense cratère de 120 mètres et 3 mètres de profondeur, nommé le Trou de la Sorcière. Hein, le bâtiment était long d'une vingtaine de mètres et semblait parfaitement intact, sans la moindre égratignure, expliquant les raisons du naufrage. Hein, rien ne permettait de comprendre comment ce navire était arrivé là. Et il était posé droit sur sa quille, comme s'il avait fait d'un coup d'arrêt de flotter, et qu'il était descendu tout droit en tombant. Hein, alors là, voilà des découvertes récentes, hein, qui sont faites. Hein, nous amène, hein, nous amène à bien sûr là nous poser la question de la dématérialisation, effectivement, suite à des trous, à des vortex de la mer qui tout simplement engloutirait en quelques secondes les navires. Alors tout à l'heure, je vous évoquais comme raison de cette situation magnétique, le fait que, Chicxulub, hein, la météorite, ou probablement même la comète, hein, qui se serait crachée, aurait pu être aussi suivie d'autres. Et pourquoi pas, hein, en effet, pourquoi pas, au fond de l'océan, il y a là aussi des restes magnétiques, hein, liés à ces aérolithes, hein, qui provoqueraient dans cette zone tout un tas de phénomènes mystérieux, hein, Ça peut être une explication, effectivement, hein, du triangle des Bermudes et surtout des phénomènes que cela provoque. Et c'est un sujet qui continue aujourd'hui d'intriguer, hein. Il y a une littérature extrêmement abondante sur tout cela. Également, et je vous le recommande, un nombre étonnant étonnant comment dire de reportages qui comment dire bon bah, nous amène à essayer d'avoir notamment un qui est passé récemment comment dire National Geographic hein, et qui eh bien est un reportage qui se proposait je cite de vider littéralement le fond de l'océan à cet endroit-là pour essayer de comprendre d'où pouvait venir ce phénomène. Alors pour les 20 minutes qui nous restent, eh bien, nous allons élargir le sujet de ce soir sur quelques autres mystères, hein, sur d'autres mystères que j'ai sélectionnés évidemment dans le flux historique, hein, et qui concernent donc des choses tout aussi inexplicables ou prétendument, en tout cas inexplicables. On va les évoquer à présent rapidement ensemble. Alors déjà dans l'histoire, si on peut dire classique, l'histoire avec un grand H, pourrions-nous dire, il y a le fameux mystère. Du suicide, du prétendu suicide d'un des fils de l'empereur François-Joseph, le prince Rodolphe. Suicide de Meyerling le 30 janvier 1989. Hein. Probablement. Ce n'est pas un suicide, probablement a-t-il été exécuté par les services secrets de l'Empire d'Autriche-Hongrie, tout simplement parce que, il était en fait un réformateur, hein, et les réformes qu'il souhaitait mener n'ont pas eu l'accord, si je puis dire, de son père, l'empereur François-Joseph. Et a préféré le faire disparaître sous la forme d'un suicide. Il était en plus dans un mariage plus ou moins illégal, et le 30 janvier 1989, lui et sa maîtresse se suicident à Meyerling. C'est un très beau film, je le précise, de Terence Young, hein, un film de 1968 avec Omar Sharif et Catherine Deneuve, qui explique ce fameux mystère historique, parce que tout simplement. Eh bien, deux théories s'affrontent sur une histoire romantique d'amant qui se suicide et de l'autre côté une histoire plutôt politique, si je puis dire, obscure. La deuxième mystère sélectionné, c'est l'énigme dite du temple. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énigme du temple? Eh bien, ça nous amène en plein milieu de la Révolution française, hein, et plus précisément en 1795. En effet, le Temple, qui est l'ancienne commanderie du Temple à Paris, hein, qui est donc, je vous le rappelle, récupérée, hein, lors de l'arrestation des Templiers au début du XIVe siècle par Philippe le Bel, et ensuite, eh bien, on en fait une prison. Hein. Et c'était encore le cas au moment où la monarchie et la Révolution française éclatent et la monarchie est renversée. Hein. Et donc, c'est là que la famille royale va être détenue, hein, Et puis, bon, vous le savez, Louis XVIII est exécuté. Ensuite, c'est le tour de la reine Marie-Antoinette. Et puis, il va rester dans ce temple, justement, le fameux enfant du temple, c'est-à-dire tout simplement le fils du roi Louis XVI, hein, donc le prince héritier, pourrions-nous dire, espoir de tous les mouvements monarchistes, et donc qui s'appelle le petit Louis XVII. Or, le mystère du temple précisément, eh ben, c'est ça, c'est que on dit que cet enfant est mort en 1795, mais en fait il ne serait pas du tout mort, hein. Il aurait été enlevé en quelque sorte par un complot royaliste, hein, et des comploteurs royalistes qui l'auraient emmené en Allemagne, hein, où il serait devenu le comte Karl Wilhelm Naundorf. Hein. Alors évidemment, c'est comment dire, un prétexte, si je puis dire, à tout un tas de revendications donc, pendant tout le 19e siècle, des fameux vrais descendants en ligne directe, hein, de Louis XVII, qui seraient descendants évidemment de ce personnage. Hein, alors, beaucoup d'auteurs, notamment des auteurs contemporains, historiens, grands spectacles, se sont penchés dessus. Hein, Georges Lenôtre, André Castelot, Alain Decaux, Georges Bordenave ou Jacques Sopelsa, pour ne citer que les principaux. Ça fait aussi partie des fameux grands mystères de l'histoire. Autre mystère sélectionné par moi pour vous ce soir, cela concerne donc cette fois-ci l'homme au masque de fer. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire du masque de fer? Alors ça nous renvoie au règne de Louis XIV, le début du XVIIIe siècle. C'est vrai que Louis XIV est mort en 1715, et un personnage donc était détenu depuis très longtemps dans les prisons royales, et on l'appelle le masque de fer simplement parce que son identité est totalement inconnue, et pour à raison, puisqu'il portait effectivement un fameux masque de fer. Alors là aussi, et c'est reparti pour un tour, si je puis dire. Les historiens ont tergiversé pas mal sur tout cela, notamment sur l'identité, hein, bien sûr, du fameux masque de fer en question. Alors, on a prétendu les théories suivantes. Dont certaines sont quand même assez farfelues. On a prétendu que c'était Henri II de Guise, donc un descendant des fameux ligueurs des guerres de religion. On a prétendu que c'était Molière, le dramaturge. Mais pourquoi Molière aurait-il été ainsi masqué? On a prétendu que c'était D'Artagnan, le fameux leader des mousquetaires du roi, et notamment de la période de Louis XIII. On a prétendu aussi, voilà, peut-être un peu plus intéressant, ce serait agi, s'agit d'un frère jumeau de Louis XIV. Eh bien, oui, alors là, effectivement, ça peut devenir plus intéressant parce que, eh bien, ce frère jumeau ne pouvait être amené qu'à être, si je puis dire, neutralisé, hein. Et évidemment, afin d'éviter qu'il puisse être récupéré par des comploteurs éventuels, hein, cherchant à renverser le roi. Et puis on a dit aussi que c'était Nicolas Fouquet, le fameux surintendant, vous savez, Fouquet, hein, qui avait invité le jeune Louis XIV à une réception somptueuse dans son château, hein, donc au début du règne du roi, et qui avait tellement rendu jaloux celui-ci, c'était le surintendant Fouquet, hein, c'est-à-dire celui qui était l'équivalent du ministre des Finances aujourd'hui. Hein, et bien ce fameux Fouquet, donc, aurait été effectivement embastillé avec donc un masque de fer. Alors, en tout cas, ce personnage meurt le 19 novembre 1703 à la Bastille, hein, et c'est de là, en fait, hein, que naît le mystère, puisque sur la fameuse identité du personnage en question. On ne sait même pas où il est enterré, peut-être dans le cimetière de l'église Saint-Paul. Hein, et donc, le mystère reste entier, et là encore une fois, comme pour tous les autres éléments, hein, que je vous ai indiqué tout à l'heure, hein, eh bien, nous sommes donc dans le mystère et les théories, hein, donc les plus faramineuses, hein, sur ce genre de choses. Mais c'est très populaire et beaucoup d'ouvrages existent et cela fait vendre, bien sûr, beaucoup de littérature. Autre de ces mystères, avant de nous diriger vers la conclusion de la soirée, autre de ces mystères qui est celui de la double mort du tsar Alexandre Ier. Tsar Alexandre Ier, qui est-ce? Bah, c'est surtout le grand vainqueur, hein, de Napoléon, hein, ses dates sont 1777-1825. Ça va être un des grands rivaux des guerres de l'Empire, hein, de Napoléon Ier. C'est contre lui que Napoléon va envahir la Russie, vous savez, en 1812, hein, avec évidemment l'échec cuisant que cela représentera. Et là, il ne s'agit pas de s'intéresser à Alexandre Ier pour ça, mais du fait qu'il ne serait pas du tout mort en fait en 1825, mais beaucoup plus tard, et aurait vécu en ermite. C'est un mystère relativement peu connu d'ailleurs de l'historiographie russe, hein, plus connu en Russie que Paris. Et puis pour terminer, eh bien, il nous faut évoquer le cas multi, si je puis dire, avec des apparitions multiples au cours de l'histoire. La fameuse grande duchesse Anastasia, hein, c'est-à-dire l'une des filles du tsar Nicolas II, qui, je vous le rappelle, à l'issue de la révolution bolchevique, est exécutée avec toute sa famille à Sverdlovsk, hein, le 15 mars 1917. Alors là aussi, la mystériologie, le romantisme historique veut que une des grandes duchesses aurait pu échapper à ce massacre, Anastasia, et donc que l'on voit réapparaître, revendiquée par différents personnages. De même, d'ailleurs, pareil que pour l'histoire du petit Louis XVII, dont tout un tas de personnages, au travers de l'histoire, au XIXe siècle, vont se réclamer comme étant le descendant. Hein. Ben là, c'est un peu la même chose. Hein. Et Anastasia, donc, va réapparaître différentes formes, sous différents noms, différents personnages qui vont vouloir dire tout simplement qu'elle descende en ligne directe, hein, de Nicolas II. Ce sera des choses qui seront souvent reprises, hein, comment dire, au cours de l'histoire. De la guerre froide, hein, notamment, parce que bien sûr, c'était l'idée d'un élément déstabilisateur, hein, pour le régime soviétique. Hein. Et puis encore jusqu'à aujourd'hui, ce sont des sujets qui comment dire, fascinent les historiens, de même que la disparition, hein, de la famille impériale, hein, de Nicolas II. Hein, dont on le sait bien, les corps ont été, on a tout fait pour les faire disparaître, et ça n'est que au mépris d'un prix de recherche incroyable, hein, notamment à la fin du communisme en Union soviétique, au début des années 90, que l'on a patiemment réussi à retrouver quelques restes, hein, de cette famille impériale. Si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, les obsèques officielles avaient eu lieu sous le premier président de la Russie démocratique, si je puis dire, Boris Yeltsin, après 1992. Voilà donc quelques exemples, hein, que je voulais voir avec vous autour ce soir de ce mystère du triangle des Bermudes et des mystères historiques. Je crois que le travail, évidemment, de l'historien, hein, bah, c'est avant tout, hein, comment dire, de rétablir la vérité historique, en tout cas en recoupant les sources, d'essayer de se rapprocher le plus près possible de cette vérité historique. Néanmoins, ces zones de mystère, hein, que j'ai évoquées avec vous ce soir, le triangle des Bermudes, et puis d'autres mystères qu'on avait évoqués dans les émissions précédentes, ne sont pas pour autant à négliger. Hein. Ce sont souvent des points, hein, comment dire, d'intérêt qui nous permettraient, nous permettent, hein, parfois de trouver des pistes, hein, sur des choses que nous ne maîtrisons pas, ou de nous faire trouver, hein, des choses incroyables. J'avais évoqué dans une émission assez récente la question du Titanic, hein, rappelez-vous, qui croyait avant les technologies actuelles que l'on retrouverait un jour le Titanic? Hein, et là, vraiment, la réalité a rejoint le rêve. Parce que, gardez, souvenez-vous, gardez en mémoire les images absolument extraordinaires, hein, de cette épave, hein, retrouvée par des milliers et des milliers de mètres de fond. Hein, et sans parler des très beaux films, dont celui évidemment de Cameron, hein, qui évidemment racontait cette histoire incroyable sur ce navire. Donc toujours garder à l'esprit que la part de rêve, la part d'imaginaire, selon moi, est quelque chose de fondamental dans le travail de l'historien. Ça n'est pas un goût immodéré du mystère, mais les mystères, ça nous permet d'avancer parce que, bah, tout simplement, on a envie de les résoudre. Et en ayant envie de les résoudre, eh bien, cela nous plonge dans la recherche historique passionnante que cela représente. Nous nous arrêtons donc eh bien, ici pour une pause estivale, avant une reprise à la rentrée, avec d'autres émissions. On verra avec Cédric comment tout cela va s'organiser. On a mis d'ailleurs quelques projets, notamment un beau projet en cours sur la page Facebook, notamment de l'émission. En attendant, eh bien, je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous un bon été. Regardez bien autour de vous si vous êtes passionné d'histoire, car c'est souvent au détour d'une rue ou tout simplement d'un paysage que parfois, eh bien, on peut être amené à faire de grandes découvertes. C'était donc Olivier Burette avec vous ce soir pour Histoire du soir, numéro 8. Nous sommes le 7 juillet 2016. Je vous dis à bientôt.